RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Véronique Rigolet.
Bonsoir Roselyne.
Notre invité ce soir est Alexis Corbière. Vous êtes porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, candidat donc de la France insoumise. Bonsoir et merci,
merci
d'être
merci
avec nous. Alors, le vainqueur de la primaire de gauche comme à droite n'est pas celui qui était forcément prévu ou attendu, Benoît Hamon. Jean-Luc Mélenchon a théorisé le dégagisme, le fameux « dégage », slogan du premier printemps arabe contre le président tunisien Ben Ali. Alors après Sarkozy, Juppé, Valls, les primaires sortent les sortants. Et pourtant, vous n'êtes pas un fan de l'exercice des primaires, loin de là, puisque vous le comparez au suffrage censitaire et vous le qualifiez d'exercice égotique. Mais quoi que vous en disiez ou vous en pensiez, c'est Benoît Hamon qui est sorti de la boîte avec quand même 58% des voix et près de 2 millions de votants. Alors dès dimanche soir, le vainqueur promettait le rassemblement des forces de gauche, mais visiblement ça n'en prend pas le chemin. On va en parler bien évidemment, mais avant cette affaire Fillon, donc François Fillon qui a les juges aux trousses depuis quelques jours, et cette affaire qui prend de l'ampleur, une addition qui flambe avec les dernières révélations ce soir du canard enchaîné. Pénélope Fillon aurait touché au total 900 000 euros et il aurait employé, François Fillon, ses enfants comme assistant parlementaire pour 84 000, l'affaire, entre 2005 et 2007. Alors, première question, qu'est-ce que vous inspire cette affaire et d'après vous, est-ce que François Fillon pourra tenir longtemps?
Bon, comme tous les Français, c'est indigne, il y a une forme de... Vous savez, moi je pense comme Montesquieu que la vertu doit être le fondement de tout gouvernement républicain. Et la particularité de M. Fillon en plus, c'est qu'il était rentré dans la primaire de la droite avec une phrase forte, imagine-t-on, le général de Gaulle mis en examen, et on voyait bien les œillades qu'il envoyait.
Bon, la vertu est-elle de ce monde?
Ben, il le faut. Non, franchement, je pense que il le faut. Du moins, moi, vous savez, je suis enseignant, je suis comme tout le monde, salarié. On parle de salaire de Madame Pénélope Fillon, qui est le double de ce que moi, comme un enseignant depuis 22 ans, je touche. Et je crois que beaucoup de gens se disent, mais qu'est-ce que c'est que ces sommes, déjà, fort importantes, pour faire des emplois qui, manifestement, ne sont pas prouvés, c'est le moins qu'on puisse dire.
Voilà, c'est là que le...
Non, mais c'est là qu'est le problème.
C'est totalement légal, si
voilà.
Il y a
plusieurs aspects que, moi, je dis la chose clairement, je crois maintenant qu'il ne faut pas embaucher des membres de sa famille. Mais à la limite, le fait de travailler en vérité avec son épouse ou ses enfants pourrait faire sens. Il y a des commerçants qui travaillent comme ça. Là, ce qui est vraiment choquant, c'est qu'en vérité, il a extrêmement de difficultés à prouver la réalité de la fonction. J'ai même vu, moi, l'exemple de la revue des Deux Mondes. Alors, je parle à la mesure de ce que je dis dans la presse, hein, mais enfin, je crois quand même qu'il y a des choses...
Mais comme ça, vu d'avion, est-ce que vous dites qu'il faut qu'il se retire?
Ah ben je crois qu'il aura du mal à continuer, ça je crois qu'aujourd'hui, ou alors et ça va être un candidat en charpie qui la base qui sociale qui se reconnaissait en lui, à savoir d'une droite éthique, d'une droite propre, qui était en quelque sorte en contrepoint de ce que avait un peu symbolisé Monsieur Sarkozy. Bon, c'est là-dedans je crois qu'il y a eu l'énergie chez les gens de droite qui l'ont porté, et je pense que les gens vont être indignés. Parce que je sais pas comment vous dire, enfin tout le monde le voit bien. Quand on commence en disant, comme je l'ai dit tout à l'heure, que c'est la question de l'éthique, le rapport à la justice qui doit être clair, et qu'on s'aperçoit qu'il est quelqu'un qui... Franchement, c'est tous les pires comportements de la Ve République. Côté népotique, obscur, des amitiés avec des patrons de presse qui embauchent sa femme pour lui rendre un service, alors que les pauvres gens qui travaillent à cette revue découvrent des sommes folles. Enfin, voilà, je crois que là, vraiment, c'est un nouvel événement de cette campagne présidentielle, me semble-t-il, on va en parler, qui confirme le grand chamboule-tout dont on parlait. Oui. C'est-à-dire que rien n'est écrit.
Vous voulez dire que même si ces emplois n'étaient pas fictifs, François Fillon devrait sortir au vu des montants, des sommes annoncées et que sa famille ait pu en bénéficier?
Moi, c'est mon opinion à ce stade, avec l'observation du poste qui est le mien, que quand même la légalité a été respectée, je pense que la moralité est atteinte. Voilà, je le dis, je mesure que c'est grave, mais je crois là, il y a des choses qui sont moralement quand même condamnables. Je crois, alors si je dis une sottise, mais quand j'observe... Madame Fillon était assistante parlementaire, n'avait même pas un badge pour entrer à l'Assemblée nationale. Il y a des gens qui sont assistants parlementaires, c'est des métiers difficiles et qui peuvent se dire, mais comment est-ce possible? Bon voilà, je crois que là, vraiment, on est tous choqués. Et il faudra en tirer des leçons politiques, on va en parler. Parce que c'est pas seulement un arrow sur le baudet, mais qu'est-ce qu'on fait?
La question est, est-ce qu'il y a quelque chose de pourri dans le Royaume de France? Puisque c'est, rappelons que c'est légal d'avoir une enveloppe. Jean-Luc Mélenchon, lui, a été sénateur. Il a sans doute bénéficié aussi de cette enveloppe-là pour ses assistants parlementaires. A-t-il, lui, par exemple, embaucher des membres de sa famille ou des amis lorsqu'il était sénateur?
Non mais attendez, alors mais vous avez bien raison. Des membres de sa famille, non. Après la question, qu'est-ce qu'on appelle un ami? Moi, je suis un ami de Jean-Luc Mélenchon. Je milite à ses côtés. Je n'ai jamais été son assistant. C'est pas le sujet. Mais moi, je suis pas choqué à l'idée que vous embauchez des gens qui sont vos, on va dire vos camarades, pour reprendre un vocabulaire, ou des amis politiques. Donc, on va pas non plus fonctionnariser le fait qu'il faudrait des gens que vous ne connaissez pas et que vous embauchez uniquement sur CV. Le débat, une fois de plus, n'est pas celui-là. Moi, après, il faut que les choses soient claires. Moi, je ne suis pas choqué
à l'idée.
C'est
pas un débat, c'est une question que je vous pose.
Non, mais j'entends bien. Mais je le dis à travers. Je réponds à tout le monde. Moi, après que.
Mais sur Jean-Luc Mélenchon, a-t-il, lui, embauché des personnes de sa famille pour travailler
avec
lui?
Non, jamais. Jean-Luc Mélenchon a une fille qu'il n'a jamais embauchée d'ailleurs, et ça s'arrête là. Et évidemment, et je pense qu'il ne faut pas le faire par ailleurs, d'embaucher des gens de sa famille, que les choses soient claires. Je pense qu'il faut comprendre que c'est des choses qui peuvent choquer des gens. Après, que les choses soient claires aussi. Si on veut avoir des élus qui sont indépendants des puissances d'argent, moi je ne suis pas choqué à l'idée qu'un élu doit avoir des moyens de travailler. Parce qu'aussi une façon de rendre un élu finalement impuissant, c'est considérer qu'il n'a pas de moyens pour travailler, c'est-à-dire pas de collaborateurs, et c'est uniquement les élus riches, en quelque sorte, qui auront les moyens de travailler. Bon, donc, vous voyez, donc, il faut qu'il y ait de la morale, il faut qu'il y ait des règles.
Il faut pas plus les payer, les parlementaires?
Déjà, écoutez, un parlementaire perçoit près de 6000 euros, c'est quand même extrêmement élevé.
Comment on réintroduit un peu de morale dans cette pratique?
Alors, revenons à l'essentiel. Moi, je suis pour une assemblée constituante et qu'il y ait un grand débat constituant dans ce pays. C'est une des propositions fortes de Jean-Luc Mélenchon, et qu'on passe en 6e République. Il faut en finir avec la monarchie présidentielle, et j'ai envie de dire que l'affaire Fillon est une déclinaison au niveau local de quand même d'une concentration de pouvoir, d'une opacité. On le voit bien, il y a eu de multiples affaires qui sont succédées, que ce soit sous la présidence Hollande, que sous la présidence Sarkozy. Donc il y a un moment, cette colère qui monte, qui je crois structure tout le débat politique présidentiel, se doute même sur... il y a plus d'acceptation de l'autorité dans le pays. Il faut nous rebrasser, nous refonder et discuter de ça. C'est pour ça que si Jean-Luc Mélenchon était élu, je crois que le fait qu'il y ait dans ce pays un grand débat constituant, avec des députés constituants, pour discuter quelles sont les règles communes, comment désormais nous voulons fonctionner, quels sont les droits nouveaux que nous voulons acquérir.
Plus de cagnottes, par exemple?
Par exemple, mais moi je propose surtout un droit de révoquer les élus au cours du mandat. C'est-à-dire que si des gens...
Sur quelle base,
la proposition que nous faisons, par exemple, des citoyens ont voté pour un élu. À partir de la mi-mandat, ils considèrent que ce qu'il fait n'est pas conforme à ce pourquoi ils l'ont élu. Les citoyens doivent avoir le droit, pourquoi pas fixons 10% du corps électoral, peut dire, voilà, nous souhaitons que l'élection soit refaite, eh bien on refait l'élection.
Mais pourquoi passer par une constituante? Il suffirait peut-être juste de vérifier si les gens qui sont employés et payés avec des deniers publics effectuent bien un travail, qui se fait à peu près partout.
Oui, mais...
Il faudrait embaucher peut-être des gens qui surveillent.
Donc c'est plus d'emploi. Attendez, déjà, il va de soi que dans le cas de la 5e République, il s'agit évidemment de vérifier qu'il n'y ait pas des comportements illégaux. Mais je crois que le mal est plus profond, c'est ce que je veux dire.
Je crois qu'il y a des lois sur la transparence qui permettaient de vérifier ça.
Qui ne sont pas toujours respectées, etc. Et puis même, on peut aller plus loin. Moi, j'observe que la proximité de puissance d'argent, parce que c'est aussi ça, moi. Il y a l'affaire de Madame Fillon, assistante parlementaire, et puis j'avoue que je suis choqué que un patron de presse puisse embaucher quelqu'un. Enfin, ça démontre comment on a une porosité avec des milieux d'argent qui sont assez problématiques. Mais je crois, entendez ce que je dis, que le mal est tellement profond et qu'il y a un tel aujourd'hui dégoût, un tel rejet, que ça peut mal finir. Il faut que la réponse soit démocratique et que nos concitoyens puissent dire, voilà, maintenant on va discuter quels sont les droits nouveaux que nous voulons nous donner. Moi, par exemple, je propose la prise en compte du vote blanc. Il y a beaucoup de citoyens, des fois, qui disent, ce second tour ne me va pas. Et ils sont impuissants. Et ils sont devenus... moi, je suis pour qu'on se donne ces droits nouveaux. On est trop dans un rapport d'irresponsabilité parfois des élus. On part du principe qu'il y a une forme de banalisation, qu'on vote pour quelqu'un qui ne met pas en place son programme et on dit rendez-vous à la prochaine élection.
Vous en avez parlé.
La démocratie s'est rapprochée aujourd'hui avec Internet. On peut voir rapidement. Donc, on peut imaginer un système avec des citoyens plus actifs, plus citoyens.
Alors, justement, comment il a réagi, Jean-Luc Mélenchon, quand il l'a vu? Est-ce que d'abord, il a vu ces nouvelles révélations du Canard Enchaîné? Comment il réagit? On connaît un peu, très éruptif, très sûr, comme on dit, le puissance de l'argent, il aime pas ça. Est-ce que
Alors tout à l'heure, on regarde, comme vous savez, les dépêches tombent sur les téléphones. Oui. Bon, mais je veux dire, il est fidèle à ce qu'il a notamment exprimé. C'était la semaine dernière. Il y a une indignation, effectivement. franchement, presque une surprise, mais à la limite une confirmation que ça ne peut plus continuer comme ça. Et après, la nécessité d'une certaine gravité face au moment. Je répète, cette colère populaire qui monte, c'est ça aujourd'hui qui caractérise toute la situation.
Vous disiez à l'instant, il faut plus de démocratie populaire, participative, on imagine. Est-ce que c'est pas le cas? Et est-ce que ça n'a pas été illustré par ces primaires auxquelles on vient d'assister à gauche?
Alors moi, je crois que ces primaires...
Vous venez par ailleurs, donc.
Alors, ces primaires, il y a 44,6 millions d'électeurs. Bon, elles ont rassemblé 4 millions pour ce qui est de la droite, près de 2 millions pour ce qui est de celle du Parti Socialiste. Ça reste... 3-4% du corps électoral. Et quand on le regarde sociologiquement, moi j'ai fait un petit livre qui s'appelle Le piège des primaires, on s'aperçoit que toujours ce qu'on voit, c'est que c'est le milieu urbain, éduqué, généralement...
Oui, vous le comparez au suffrage censitaire.
Voilà, c'est pour ça que je me suis permis de dire, attention, l'enjeu de tout... L'enjeu de tout... Oui, mais attendez, il faut comprendre. Oui. Non, mais le problème, c'est comment nous rapprochons, comment, notamment les milieux populaires majoritaires dans le pays, ouvriers et employés, rappelons que c'est plus de 54% de la population active. D'accord? Et si c'est ceux qui choisissent sont toujours les CSP+, comme on dit, je crois que on comprend ce que je veux dire, ceux qui sont intégrés encore à la vie politique, qui s'intéressent au débat politique, qui choisissent en quelque sorte de qui doit être le candidat, à travers souvent certains codes, etc., on en vient à avoir peut-être des surprises, et on règle pas le problème, mais comment on implique mieux le citoyen.
J'entends bien ce que vous dites, mais est-ce que l'autre problème n'est pas que dans une primaire, ça parle à un cœur d'un électorat, et puis après, les candidats qui sont désignés vont parler à la France entière. Est-ce que le hiatus, il ne se situe pas tout, pas là, dans le fond? Et on l'a vu à droite et à gauche, ça, on va dire, les voix vont vers les radicalités dans chaque parti.
Mais qu'appelez-vous une radicalité? Est-ce que ma proposition de provoquer
à droite
une assemblée constituante est une forme de radicalité? Revenons à l'essentiel, parlons des propositions. Ce qu'il y a de passionnant, moi je dis à tous les Français, à ceux qui nous écoutent maintenant, lisez les programmes. Voilà, lisez tous les programmes, le mien, mais ceux des autres, et faites-vous une opinion. Ne soyez pas, arrêtons ce pouvoir d'injonction parfois des sondages, de dire un tel ou un tel. Faites-vous une idée de qu'est-ce qui est bon pour ce pays. Et moi, ce que je... Aussi, je termine une autre critique vis-à-vis de ces primaires, c'est qu'elles visent à définir un camp. Et moi, avec Jean-Luc Mélenchon, nous l'avons dit, je ne crois pas qu'aujourd'hui, cette colère et cette indignation qui monte dans le pays peut se retrouver derrière un candidat du Parti Socialiste. Donc, c'est un peu ce qui a eu lieu. Le Parti Socialiste a choisi son candidat selon ses règles. Très bien, dont acte. J'ai dit ce que là-dessus, je ne conteste pas. Mais pour autant, n'est pas épuisé aujourd'hui la grande volonté de changement.
Le candidat choisi par 2 millions de votants, en tout cas, c'est Benoît Hamon. Il vous tend la main pour... Pourquoi ne pas l'accepter?
Alors,
J'aurais voulu qu'on l'écoute, si vous...
On va l'écouter,
parce qu'effectivement, c'était dimanche soir, et on l'écoute et on en reparle.
Il faudra aussi rassembler la gauche et les écologistes. S'il existe des différences, les idées en partage sont si nombreuses. Jamais les forces de progrès ne perdent à se parler, à construire ensemble. Dès lundi, je proposerai donc à tous les candidats à cette primaire, mais aussi à tous ceux qui se reconnaissent dans la gauche et l'écologie politique, en particulier Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon, de ne penser qu'à l'intérêt des Français au-delà de nos personnes.
Alexis Corbière, pourquoi ne pas rejoindre les forces de progrès que vous propose si généreusement Benoît Hamon?
Alors premièrement, juste, je vous donne l'information.
Vous avez des nouvelles?
Je n'ai pas pris contact avec Jean-Luc Mélenchon. Manifestement, il a jugé plus important d'abord d'aller voir Bernard Cazeneuve et de voir...
Il avait peur peut-être, non?
J'en sais rien, mais enfin je veux dire, je ne suis pas dupe sur le petit jeu médiatique qui consiste à dire jetant la main tout en ne faisant rien concrètement pour que le débat s'engage. Et en disant, il y en a un qui ne veut pas me parler, alors que je rappelle que Jean-Luc Mélenchon...
Donc pas de nouvelles, il ne vous a pas appelé?
Voilà, je rappelle que Jean-Luc Mélenchon même avait déclaré la semaine dernière, avant la victoire de Benoît Hamon, mais que l'on pressentait que rencontrer Benoît Hamon, il avait dit boire un café ensemble, discuter n'est pas un problème. Donc on arrête ces postures. La discussion que nous souhaitons avoir, pourquoi pas aussi avec Benoît Hamon, c'est comment on analyse le moment. L'énergie qu'il a fait gagner est d'abord une énergie qui a sanctionné Valls. Les gens sont venus voter pour battre M. Valls, qui incarnait le plus de toute l'équipe des candidats le gouvernement en place.
Plus et une victoire anti-Valls qu'une victoire...
Je crois. Je crois que Benoît Hamon, qui était le moins connu au point de départ, a profité finalement de ce déficit de notoriété pour pas être comme un homme neuf par rapport aux autres. Mais il est aussi quelque part comptable de ce bilan, et surtout on le voit aujourd'hui, il va avoir besoin de recoller les morceaux d'abord du Parti Socialiste. Et donc, là, il veut se présenter comme un homme de rassemblement, ça peut toujours être facile, mais c'est d'abord la division dans son camp qui est en train d'avoir lieu, si je lis la presse, et j'observe que certains voulant partir du côté de M. Macron, soit d'autres disant, nous, de toute manière, on ne fera pas campagne pour lui. Alors ça pose un problème dont on va parler, c'est que les candidats de M. Hamon à l'élection législative, sont à 90% ceux qui ont soutenu la politique de M. Hollande et de M. Valls depuis 2012. Donc est-il cohérent que M. Hamon soit candidat pour l'abrogation de la loi El Khomri et d'avoir pour candidate aux élections législatives, par exemple à Paris, Mme El Khomri ? Il y a là une contradiction qui va apparaître désormais.
Oui. Et il n'a pas encore les clés du PS, donc ce n'est pas lui qui décide des investitures.
Donc comment il fait ? Eh ben voilà.
Donc, dimanche. Bah,
oui. D'accord. Donc non mais dimanche.
Non mais là c'est... vous noyez le poisson parce qu'en fait.
Pardon.
Non mais j'entends bien parce qu'avant de regarder le problème dans le camp dans le camp du Parti socialiste, le sujet c'est tendre la main que est-ce que vous allez saisir la main de Benoît Hamon s'il vous appelle. En clair, vous dites les primaires c'est une bataille d'ego. Est-ce que la présidentielle c'est pas non plus une bataille d'ego. Par quelle grâce serait touché serait saisi Jean-Luc Mélenchon? Est-ce qu'il y en a un qui devrait se retirer au profit de l'autre pour que la gauche gagne ? C'est ce que dit aujourd'hui une tribune dans le monde
des
écologistes.
La question, une fois de plus, c'est je vais vous répondre.
Oui.
Je vais vous répondre. Je vais essayer du moins. On me dirait ce que vous en pensez.
mais
c'est des questions intéressantes. Non, mais franchement,
il n'y a pas de.
C'est que est-ce que Benoît Hamon est le candidat du Parti socialiste ? Je crois qu'il l'est désormais, comptable des 577 candidats du Parti Socialiste, n'ayant pas prévu de retirer l'investiture du Parti Socialiste, et notamment avec l'énergie qu'il a portée au pouvoir, ne se reconnaîtra pas demain quand apparaîtra le fait que, quand vous votez Hamon, vous votez aussi pour M. Valls, vous votez aussi pour Mme El Khomri. Il va avoir un problème sur sa ligne politique. Et s'il veut discuter avec nous, avec d'autres, moi j'ai pas de problème de discuter avec Benoît Hamon.
Par ailleurs, les conditions ?
Déjà, qu'il clarifie quel est le programme de Benoît Hamon.
Du Parti socialiste, comme lui a demandé l'écologiste Yannick Jadot.
Il a besoin, je crois, et on va voir tout ça ce week-end, etc. D'abord, son programme, il a dit qu'il voulait l'enrichir quand il entend certains qui disent qu'il faut assumer la politique du gouvernement. On voit bien qu'il va avoir une semaine qui va peut-être révéler des contradictions. Donc, la différence, vous savez, moi j'ai amené le programme que nous avons, l'avenir en commun, le programme de Jean-Luc Mélenchon. Benoît Hamon a mis quelques idées dans le débat, notamment le revenu universel. Et il a lui-même déclaré au cours du débat qu'en fait il ne le ferait pas complètement. Donc, vous voyez, quel est le programme de Benoît Hamon précisément? Nous, on en a un.
Il dit qu'il le fera pas.
Parce qu'il l'a dit. Il a considéré qu'à ce stade, il ne pourrait pas appliquer le revenu universel, qu'il a uniquement parlé d'une mesure pour les
18-25 ans.
Ça, c'est pas un revenu universel. Oui. Nous, on propose une allocation d'autonomie jeunesse que nous portons. Donc, voyez, c'est une idée qui était assez confuse, qui a évolué d'ailleurs au cours du débat. Monsieur Hamon a dit que ce serait 530 euros, peut-être 750. Moi, ça me va pas.
Vous pinaillez pas un peu, là.
Oui, visiblement.
Pourquoi pinailler?
Pinailler parce que, je veux dire, si la gauche veut gagner, il faut qu'elle soit rassemblée. Vous imaginez bien.
Moi, je veux bien, mais vous avez...
Attendez. Pour gagner, pas pour aller cueillir des fraises.
2012, attendez, comprenez bien, quand on fait la politique, d'abord, il y a des analyses du moment. Est-ce que le moment est au rejet, aujourd'hui, ce chamboule-tout, ce dégagisme que vous avez évoqué, de ceux qui incarnent les politiques menées précédemment ? D'accord ? Oui ou non ?
Oui.
D'accord. Alors, si c'est ça, je crois que le candidat Hamon, candidat du Parti Socialiste, va, dans quelques semaines, apparaître aux yeux des électeurs comme un homme comptable de ce bilan, à commencer aussi par les candidats aux élections législatives qu'il va soutenir. Est-ce que vous voulez que l'énergie politique que représente Jean-Luc Mélenchon, ce qu'il veut incarner, doit se dissoudre là-dedans? C'est la discussion que nous voulons avoir. Là-dessus, Monsieur Hamon doit aller un peu plus loin que sa proposition de revenu universel, qui est une proposition que, par ailleurs, je juge dangereuse, ayant en plus des postulats de point de départ avec lesquels je ne suis pas d'accord, notamment la fin du travail, je ne suis pas d'accord. La transition écologique, c'est 1 million d'emplois, 900 000 précisément selon le CNR.
On va parler de ce qui vous rapproche et ce qui vous éloigne.
Donc voilà, c'est une discussion politique. Quand on veut parler politique, on parle politique.
Véronique. Peut-être juste une question avant, parce que on parle beaucoup de ce dégagisme. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon, lui, 65 ans, deuxième fois qu'il se présente, il est vacciné contre le dégagisme?
Mais tout peut arriver. Mais attendez, mais le chamboule.
Ça baisse pas dans les négociations qui vont se jouer.
Mais vous avez bien raison. Et les gens, ils veulent dégager ceux qui incarnent le pouvoir en place. Monsieur Sarkozy, monsieur.
Donc Emmanuel Macron, il a toutes ses chances alors.
Je crois qu'au cours de la campagne passionnante que nous allons vivre, le personnage un peu, pour l'instant, difficile à saisir de Monsieur Macron va apparaître de plus en plus dans sa réalité. Et sa réalité, je crois qu'on n'échappera pas au fait qu'au bout d'un moment, apparaîtra de plus en plus qu'il a été ministre et lui aussi comptable de la politique de Monsieur Hollande. S'il réussit le coup d'éviter de passer entre les gouttes, je dis chapeau l'artiste, mais quand même, quand on se présente comme étant anti-système et comme étant non pas comptable du bilan de Monsieur Hollande, alors qu'on en a été une pièce maîtresse, ce serait
Macron
un coup de maître.
Qui a quitté le gouvernement, Benoît Hamon qui a été frondeur, doivent être tenus responsables du bilan du quinquennat Hollande entièrement.
Non,
ils sont partis.
Pas entier. Attendez, qui c'est qui est parti?
Benoît Hamon lui a indiqué la sortie, et Macron est sorti tout seul.
Alors, premièrement, Monsieur Macron, il est sorti dans un moment tactique, d'accord, mais il a été quand même, c'est l'homme du 49-3. La première loi Macron, elle est adoptée par le 49-3. Et puis on pourra continuer sur d'autres sujets.
Voilà, c'est la fin de cette première partie de Mardi Politique. On se retrouve avec Alexis Corbière juste après le flash d'info.
FI et France 24 présentent
Mardi Politique.
Retour dans Mardi Politique avec Véronique Rigolet, notre invitée ce soir. Donc Alexis Corbière, donc vous êtes porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, candidat à la présidentielle pour la France insoumise. On va évoquer dans le fond ce qui vous rapproche et ce qui vous éloigne de Benoît Hamon. Mais avant, on va parler du cas Emmanuel Macron, parce que vous en conviendrez, la victoire de Benoît Hamon fait les affaires d'Emmanuel Macron, ne font pas forcément les affaires de Mélenchon.
Une fois de plus, vous savez, premièrement, les sondages, ça va, ça vient. Si on est obnubilé par ça, on devient fou parce qu'on avait des bons sondages. C'est possible qu'ils soient un peu différents. D'abord, je reprends ce qu'on disait tout à l'heure, une analyse politique. Moi, je crois qu'il y a cet moment de grande turbulence. Oui. Voilà, ceux qui sont aujourd'hui hauts, la vague qui les porte peut demain les éjecter. Oui. Donc, il faut être sur une orientation politique. Et nous, nous souhaitons être l'instrument de cette énergie populaire pour dire, faut tout changer. Je parlais notamment, la Ve République me semble être le cadre, comment dire, coercitif aujourd'hui, qui met à distance le citoyen. On propose une assemblée constituante et un débat pour passer en 6ème
République. Ça fait longtemps que vous dites.
Oui, non, mais j'entends bien. Voilà.
C'est être audible, en fait. Et c'est vrai que Benoît Hamon, c'est le truc nouveau, ça a été effectivement le revenu universel. C'est la France. Il y a une partie des Français qui veulent aussi rêver que la France, que la gauche change la vie. C'est aussi ça. Est-ce que vous n'avez pas peur que Benoît Hamon ringardise votre candidat?
Et il faut toujours, dans une campagne politique, écouter ce qui se passe, etc. La question, je vais vous dire, il y a une vertu dans ce qu'a fait Benoît Hamon sur l'avenir universel. Parlons du rapport au travail, c'est passionnant. Voilà. Nous, on propose par exemple un droit opposable à l'emploi. On est pour qu'on réfléchisse de quelle manière, y compris combattre évidemment au sein de l'entreprise les inégalités, etc. Moi, là où je le dis, j'en ai déjà discuté avec Benoît Hamon, déjà le revenu universel... l'idée, il la reprend comme ça. Je rappelle que lors du dernier congrès du Parti Socialiste, il ne la portait pas. Ça sort un peu du chapeau. Bon, très bien, c'est pas un argument, mais enfin...
C'est bien, tout le monde peut s'amender,
non ? Pourquoi pas ? L'idée, c'est de fusionner toutes les aides sociales à l'heure actuelle, si on allait jusqu'au bout de l'application du revenu universel. Et reconnaissez que Benoît Hamon a dit qu'il ne le ferait pas. Mais l'idée, au point de départ, c'est considérer qu'on va tout fusionner pour verser à chacun une somme, 750 € il finit là-dessus, 200 € en dessous du seuil de pauvreté, quand même. Et après, c'est restons-en là. Je rappelle qu'actuellement, les aides sociales pour une femme avec deux enfants isolée peut amener à ce qu'elle bénéficie de 1 124 €. Donc, il y a un danger dans la proposition Hamon, si on fusionne toutes les aides sociales, c'est que certains secteurs de la société se voient encore moins, avec encore moins d'aides que ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais au-delà de ça, il y a une belle discussion à avoir avec Monsieur Hamon. Le point de départ, je répète, attendez, ne croyez pas, Benoît Hamon fait partie d'une génération politique, je le connais depuis longtemps et je discute et il est intéressant. Mais il justifie son revenu universel en disant demain c'est la fin du travail. Je ne crois pas à cette idée. Si Benoît Hamon croit en ce qu'il dit qu'il faut aller vers la transition écologique, sortir du nucléaire, lui dit une partie, etc., c'est, je le disais tout à l'heure, 900 000 emplois à la clé. Il y a dans ce pays des formidables besoins sociaux, besoins, on le voit bien à tous les niveaux, que ce soit éducation, etc. D'où vient l'idée que demain, il y aurait besoin de moins de travail ? Modifier notre rapport au travail, réduire le temps de travail, pourquoi pas une 6ème semaine de congés payés, notre rapport, évidemment, on est d'accord. Et ça, c'est intéressant d'en discuter.
On ne fait plus rien, quoi. On travaille, vous dites, on travaille moins, et 6ème semaine de congés payés, donc on en...
Non mais la souffrance au travail, c'est un vrai sujet, par exemple. Si aujourd'hui, que les choses soient claires, ce pays produit des richesses, je crois, moi, pour dire les choses un peu...
Mais si on travaille moins, on produit moins.
Mais la productivité des travailleurs français est une des plus élevées du monde, d'accord ? La question, vous savez, ce pays a produit des richesses. La particularité, c'est qu'aujourd'hui, la répartition des richesses produites n'a jamais été autant inégalitaire. C'est ça, selon moi, le problème. Par exemple, je propose, dans notre programme, pas d'écart de salaire supérieur de 1 à 20 dans l'entreprise. Si des gens veulent se payer au plus haut, tout le monde augmente. Voilà. Ce qui est choquant, c'est qu'aujourd'hui, on passe à dans certaines grandes entreprises, d'une différence de 350 fois le salaire le plus bas. C'est dingue. Dans les années 70-80, dans le capitalisme français qui était déjà, il y avait des écarts de 1 à 40. Aujourd'hui, c'est 1 à 350. 1 à 570, même chez Monsieur Gosse.
Les différences avec Benoît Hamon sont pas irrémédiables entre Mélenchon et Hamon. Sur quelle base pourrait se poser un bon compromis entre l'un et l'autre? La demande, c'est quitte d'abord le PS, on parle après. Ça, c'est pas le début d'une proposition.
Bien entendu, ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit d'abord, il doit clarifier. Candidats aux élections législatives sont les mêmes que ceux qui ont soutenu Monsieur Hollande?
Mais non, ils vont
Hollande.
Toucher Macron.
Il doit
garantir que tous les anciens ministres de François Hollande n'auront pas.
Pas seulement de ministres. Devant les électeurs, j'essaie de faire des scénarios. Est-ce que devant les électeurs, quelqu'un peut aller dire toc toc, bonjour, je suis le candidat de Monsieur Hamon? Je suis pour l'abrogation de la loi El Khomri, faire l'inverse de tout ce qu'a fait Monsieur Hollande, parce que franchement, ça va pas du tout. Et l'électeur va dire, attendez, je vous connais, vous êtes le député qui m'expliquait dans votre lettre toutes les semaines qu'il fallait soutenir le gouvernement. Est-ce que ça, dans un moment de grande turbulence, avec une extrême droite qui est là, une droite qui est là en grande difficulté, etc., est-ce que ça, c'est crédible? Et est-ce que, ce que je disais tout à l'heure, cette énergie populaire qui, franchement, a une grande distance avec les politiques, est-ce qu'elle va pas se dire, mais franchement, assez d'hypocrisie? Donc, Monsieur Hamon, je répète, il a capté une chose positivement très bien dans le cadre de ses primaires, qui est, il faut en finir avec Monsieur Valls. Mais il reste un personnage qui manque de cohérence. Et je voudrais pas que l'arbre Hamon cache la forêt de la réalité.
Il cache surtout la forêt Mélenchon. C'est surtout ça votre problème. Parce que vous êtes sur à peu près le même créneau. Par exemple, Benoît Hamon propose le revenu universel.
Je n'ai pas été ministre de Monsieur Hollande qui a mis en œuvre le traité Sarkozy-Merkel qui devait renégocier. Voilà. Vous savez pourquoi on n'a pas participé au gouvernement?
Vous pensez que le fait de pas avoir été au gouvernement vous immunise contre...
Il n'immunise à rien. Je pense que les gens ont envie de vérité, de cohérence. Mélenchon, vous lui trouvez beaucoup de défauts, je veux dire la qualité qu'il a. Il est cohérent. Vous savez, c'était facile en 2012 de dire à Monsieur Hollande, on rentre au gouvernement. On aurait pu à quelques-uns faire carrière.
Vous avez l'air de dire que d'être dans le gouvernement Hollande, c'était aller de dîner avec le diable avec une longue cuillère.
Non, mais c'est faire des erreurs majeures qui ont quand même mis ce pays dans le mur.
Il n'y a pas d'accord possible avec Benoît Hamon, si on vous écoute.
C'est pas une question de personne, mais d'ailleurs, Benoît Hamon?
Pas lui en tant que représentant du PS dans la course à l'Élysée.
Moi, ce que je veux, c'est parler aux Français en disant des choses qui sont claires, pas du baratin. Voilà. Par exemple, sur les traités européens, on va en parler. Oui, voilà. Il faut pas faire seulement entendre une musique, faut voir quelles sont les paroles.
L'Assemblée
constituante, il est pas d'accord. Sortir du nucléaire, il dit pas ça. Mais je veux pas pinailler du programme, c'est pas la question. Je pense vraiment. Et que Benoît Hamon m'écoute si à travers cette émission. Est-ce qu'il croit, je répète, que cette colère, cette indignation qui monte dans le pays peut être captée par le Parti Socialiste? Voilà, son parti. Et c'est tous ceux qui ont fait en sorte qu'on aille dans le mur. Oui. Les gens n'y croient pas.
À Yannick Jadot, tu te retires et tu viens...
Mais moi, je parle pas comme ça. Il fait ce qu'il veut. Yannick Jadot, il porte des idées dans le débat. Et je veux dire, franchement, comprenez bien, moi, je suis un peu méditerranéen, je parle fort, mais il n'y a pas d'arrogance. Ça sert à rien, l'arrogance. Les gens qu'on mobilise, nous, qui écoutent ce que nous disons, moi, je vais pas vous revoir tout le monde en disant, retire-toi, je sais pas quoi.
Alors, ce petit livre que vous avez, parce qu'on le trouve, faut l'acheter, si on veut votre programme.
220 000 exemplaires.
Mais pas me le donner un peu, là, parce que...
Alors, celui-là, j'ai griffonné, mais je vais vous en donner un.
D'accord.
Je prends pas.
Vous proposez le droit opposable à l'emploi. Alors, en clair, vous me dites si je me trompe, l'État devra trouver un emploi en cas de perte d'emploi. C'est donc l'État qui va embaucher. Donc, on embauche 2 millions de chômeurs dans la fonction publique. Et si on regarde un peu ces livres d'histoire, ça rappelle les ateliers nationaux. C'était en France après la Révolution de 1848 où on donnait aux Parisiens, l'État embauchait des Parisiens. Est-ce que aujourd'hui vous pouvez imaginer donner 2 millions d'emplois?
Pas des postes de fonctionnaires. L'idée, c'est lorsqu'on verse une indemnité à un chômeur, par exemple. Est-ce qu'on pourrait pas? Le dispositif existe d'ores et déjà. L'association ATD Carmonde sert de support à cette expérimentation. D'accord? Je crois qu'il y a 2000 personnes qui sont actuellement concernées. Et c'est intéressant de regarder. C'est quoi l'idée? Par exemple, une association support, on pourrait lui verser l'indemnité et elle compléterait l'association pour faire un salaire complet et offrir un travail à quelqu'un.
C'est pas les emplois aidés, ça?
Non, mais écoutez, le chômage de longue durée est une souffrance pour beaucoup de gens. Voilà. Faut, franchement, moi, je le dis, non, les gens, ils ont envie de travailler, ils ont envie d'être utiles.
Parce qui paye? Qui paye, là?
Je viens de vous le dire. C'est-à-dire qu'il y a une part qui est l'argent qu'on verse actuellement, en indemnité chômage. Elle peut servir et être complétée pour qu'il y ait un emploi qui soit proposé. Parce que le problème, souvent, des chômeurs de longue durée, c'est que quand plus les années passent, vous éloignez de l'emploi, vous avez du mal à y revenir. Les gens ont envie d'être utiles. Ils ont envie de travailler. Ils ont pas envie de souffrir au travail. Mais je veux dire, c'est formidable. Et l'idée, c'est que l'État, il aurait pour responsabilité, effectivement, de trouver un emploi qui correspond à la qualification de la personne, évidemment. Et on peut imaginer un système où on fait 2-3 propositions à quelqu'un. Après, on peut même imaginer un système, évidemment, s'il y a des abus.
Pour s'occuper de tout ça. Pardon? Ça va être monstrueux. Il va falloir une machinerie.
Mais aujourd'hui, 6 millions de chômeurs,
ça,
c'est
pas
monstrueux.
Non, mais ça, c'est monstrueux et tout le monde est bien d'accord. Mais organiser de retrouver du travail, voire 2-3, avec 2-3 possibilités, aux millions de chômeurs français, c'est...
Mais nous, la transition...
d'autres fonctionnaires pour mettre en œuvre.
Attendez, Pôle emploi, enfin, il y a déjà des gens dont c'est le métier et qui ont des compétences par rapport à ça. Et puis nous, ce qu'il faut, c'est proposer des boulots nouveaux.
Pôle emploi, ça marche bien.
Vous
savez comme moi.
Oui, mais attendez. Non, mais d'abord, il faut créer de l'emploi. Voilà. Moi, je pense que, notamment, la transition écologique dont nous parlons, c'est un formidable gisement de création d'emplois. Nous, on propose avec Jean-Luc Mélenchon de se tourner vers l'économie de la mer. On a le deuxième littoral du monde, des potentialités énormes. On pourrait très bien imaginer, si on veut aller vers, comme nous proposons, 100% d'énergie renouvelable en 2050, ouais, sortir du nucléaire. Mais il y a du boulot énorme. Pourquoi vous doutez?
Non, pas du tout. Je vous dis qu'on est très en retard.
Ben voilà. Ben alors, si on part du principe tous les deux, nous sommes d'accord sur le fait qu'on est très en retard. Il y a du travail. On peut très bien... Voyez, il faut avoir le goût du futur, être optimiste. Moi, quand je viens à vos studios, mais comme vous, nous habitons en région parisienne, des gens qui dorment dehors. Enfin, je veux dire, cette insalubrité que l'on voit, le problème dans les écoles que l'on constate, en ce terme de soutien scolaire et tout, mais il y a des formidables potentialités.
Oui.
Voilà.
Et après, on vous accusera de vendre aussi un peu du rêve, c'est le reproche qui a été fait à Benoît Hamon, non?
Écoutez, l'heure est à l'audace, parce que si c'est pour vendre uniquement de la sueur et des larmes et d'expliquer qu'on peut rien faire d'autre, moi ce que je vois, ce qui marche devant, c'est des idées réactionnaires. Alors, parce que si l'idée, c'est aucune solution collective n'est possible, rien par le partage, tout uniquement sur l'individualisme, et puis l'identité, puis d'où je viens, puis qui tu es, puis moi je viens vraiment de là, toi tu viens pas vraiment de là. C'est ça qu'on veut pour ce pays? Mais la France que j'aime, cette patrie républicaine, c'est celle qui se tourne vers le monde et qui dit, on peut montrer l'exemple, on peut montrer l'exemple que la 5e puissance mondiale aujourd'hui, elle peut vraiment proposer autre chose que... Franchement, on est dans un moment inquiétant du monde. Montrons un visage qui est toutes ces richesses produites par les travailleurs français. Partageons-les. Et puis, sortons du chômage, laisser 6 millions de gens. 9 millions de gens sous le seuil de pauvreté en France. Mais bon sang, il faut réagir. Les vieilles recettes qui ont échoué, on va pas continuer.
Alors, je voudrais qu'on parle de ce qui vous sépare avec Benoît Hamon. Autre sujet de divergence. Mais non, mais c'est important.
C'est un fil conducteur
Oui. C'est l'Europe. Vous dites, il faut désobéir aux traités européens. Oui. Alors, c'est un peu le yaka faucon. Désobéir, ça veut dire quoi?
Mais obéir aux traités européens, c'est aussi yaka faucon. Enfin, je veux dire, tout est, la politique, c'est yaka faucon.
Tsipras, aurait voulu, c'était son rêve, et il a compris que c'était impossible. Donc.
Bah écoutez, la vie politique, c'est compliqué. Le gouvernement grec, mais j'entends bien. La Grèce est un pays magnifique, mais qui, du point de vue de son poids économique, c'est 2% du PIB de l'Union européenne. Voilà, le gouvernement grec, pris à la gorge d'ailleurs, parce qu'il avait longtemps appliqué des politiques qui étaient proposées par la Commission européenne, etc., s'est retrouvé en situation de quasi-cessation et de faillite. Un gouvernement est porté en responsabilité, celui de Monsieur Tsipras, courageux, qui a essayé de s'appuyer sur des votes, des référendums, pour dire « nous ne sommes pas d'accord, nous voulons désobéir », mais ils ont été pris à la gorge. Et je pense qu'en plus, non seulement l'Allemagne n'a pas joué un rôle glorieux, c'est le moins qu'on puisse dire, mais la France a été...
Bah,
je crois. Bon, il fallait aider à ce qu'il y ait une partie...
D'un autre côté, elle a sauvé la Grèce aussi.
Ah bon, je ne crois pas, si vous voyez la situation aujourd'hui, que quasiment les pensions de retraite ne sont plus payées, que ce pays est un état de sauvetage. Bref, ce que je veux dire, c'est que Monsieur Tsipras, moi je juge pas les hommes, il avait un rapport de force délicat. 2% du PIB, je termine. La France, c'est 18% du PIB. Et je veux dire même, il n'y a pas d'Union européenne sans la France. Il n'y a pas d'euro sans la France. Si Monsieur Mélenchon est élu président de la République, nous avons un rapport de force, parce que bon sens, c'est pas un gros mot de le dire. La politique est toujours un rapport de force. Pour de dire, maintenant, c'est fini ces traités européens. Cette politique qui consiste à dire, en dessous de 3% du déficit public, toujours, allez, on ferme le robinet, ne mène à rien. Voilà.
Vous faites quoi? Vous dites aux Allemands, bye bye, on s'en va, on quitte l'Union européenne.
Je suis en train de vous dire l'inverse. Je suis d'abord en train de vous dire qu'on va créer un rapport de force. On appelle
ça. Un rapport de force avec les Allemands, enfin.
Donc c'est battu d'avance. Donc on arrête les élections. Je propose que Mme Merkel nomme un gouverneur général et puis on en reste là.
Non aux Allemands.
Si les pressions françaises ne marchent pas, la France sort de l'Europe, on se rapprocherait du Frexit version Marine Le Pen.
Alors effectivement, nous appelons ça le plan A, plan B. Plan A, la négociation. le rapport de force. La possibilité de trouver des partenaires. Mais vous dites, qui l'a fait? Je veux dire, franchement, ce qui a caractérisé le gouvernement Hollande, il est élu notamment, je vais renégocier le traité Sarkozy-Merkel. Ouais. Sitôt qu'il est élu, il a adopté le traité Sarkozy-Merkel.
Vous savez très bien que les Allemands ne seront pas d'accord. Donc c'est soit ils sont d'accord, et ce qui est peu probable.
Si c'est une Allemagne uniquement dictée par les intérêts de l'Allemagne qui a besoin d'un euro fort, qui a un système d'euro, c'est possible effectivement que cette Europe, soit on la change, soit on la quitte.
Oui. Donc le Frexit.
Si effectivement nous n'avons rien obtenu, si c'est comme avant, si c'est baisser le nez et taisez-vous, quel que soit ce que vote le peuple français, mais peut-être qu'à ce moment-là, vous aurez des gens en Espagne, en Italie, en Grèce qui diront, nous on est pour faire une zone économique avec vous. Pourquoi tout le monde resterait enfermé? C'est pour ça que, pardon, j'aime beaucoup la Grèce, mais nous avons d'autres cartes dans la main que celle du peuple grec. Les principales banques structurelles aujourd'hui sont en France. Mais vous imaginez si la France aujourd'hui veut mettre un terme uniquement aux licences bancaires, par exemple françaises. Bon, on a des formidables potentialités. Donc c'est, j'admets, mais que les gens m'écoutent. De toute façon, si on fait rien, moi je crois, on va vers la catastrophe. Voilà. Si, je veux dire, franchement, j'aimerais que vous ayez raison et qu'il faille uniquement.
Je vous pose en voir travers vous.
J'ai bien compris. Les braves gens, si je puis dire, je comprends, qui disent par moment, il vaudrait mieux trouver des solutions. Mais la vie impose aujourd'hui un rapport de force. Sinon, c'est l'extrême droite xénophobe, c'est l'identité qui monte
partout. Justement, parlons-en. Frexit, c'est une grande idée de Marine Le Pen. La droite républicaine vous accuse aujourd'hui d'ailleurs d'avoir un programme quasi similaire sur le plan économique avec Marine Le Pen. Comment vous appréciez ce genre de commentaires?
Déjà en 2012, c'était le cas. La droite, elle veut assimiler, ce qui est d'ailleurs assez terrible, quand vous commencez à ce que des républicains socio-écologiques comme nous sont comparés par la droite à l'extrême droite, franchement, c'est une dégradation du débat. Il faut être un peu fou d'ailleurs. Si ces gens-là ne font même pas la différence entre ce que je dis et ce que propose Marine Le Pen, moi je suis inquiet, parce que je suis quand même, je ne suis pas un homme de droite, c'est le moins qu'on puisse dire, mais enfin je respecte la droite, je fais la différence, je sais, il y a une belle histoire du gaullisme, il y a une droite sociale, si aujourd'hui ils sont tellement exaltés qu'ils pensent que ce que nous disons est comparable à l'extrême droite, qui est une programme de guerre civile, franchement c'est des arguments un peu dégradants. Bon, après, je veux dire une chose, évidemment que l'extrême droite et même le fascisme à travers les siècles a toujours eu un discours qui se veut social, qui se veut anticapitaliste. Bon, alors
depuis que Marine Le Pen a pris les rênes de son parti.
Peut-être, ouais, ok. Mais il faut écouter dans le détail ce qu'elle dit. Par ailleurs, elle n'est pas non plus pour l'augmentation du SMIC. Elle l'a expliqué dernièrement. Enfin, et son programme n'est pas social. Elle n'est pas pour que dans l'entreprise, les organisations syndicales et même les salariés aient plus de droits. Elle n'est pas pour ce que je disais tout à l'heure, une autre répartition des richesses. Donc là encore, il y a une musique évidemment qui se veut sociale, mais qui doit pas abuser les gens. Mais après, c'est un combat politique dans lequel, évidemment, les caricatures, les simplifications ont lieu. Je pense que la droite joue un très mauvais rôle si elle vise à faire croire que Mélenchon-Le Pen, c'est la même chose. Mais je crois que la droite a d'autres problèmes à gérer actuellement. Monsieur Fillon, qui était assez outrancier dimanche à la tribune, va devoir expliquer, par contre, d'autres problèmes prochainement.
J'aimerais dire un mot de Donald Trump, qui déclenche des tensions, peut-être une guerre économique avec la Chine, des tensions avec le Mexique, et puis avec certains pays musulmans, puis avec l'Iran. Comment vous imaginez les relations avec les États-Unis, avec Donald Trump, si Jean-Luc Mélenchon était élu?
Déjà une chose.
Vous y avez réfléchi? Vous y avez...
Écoutez, Jean-Luc Mélenchon s'est exprimé plusieurs fois, mais déjà, nous proposons de sortir de cette coalition militaire qui s'appelle l'OTAN. Nous le disions avant Trump. Et tout de même, c'est une coalition militaire sous l'égide des États-Unis, donc avec à la tête un personnage plus qu'inquiétant. C'est peut-être le moment, plus que jamais, de dire que nous sortons de l'OTAN, d'accord? Parce que c'est tout de même assez inquiétant. Après, vous avez parfaitement dit les choses. L'essentiel est dans ce que vous avez dit. Aujourd'hui, il y a une stratégie de la part de M. Trump qui vise à agresser la Chine, surtout. Et peut-être de faire une alliance avec la Russie contre la Chine. C'est ça les enjeux de la période qui vient, qu'il va falloir observer. Parce que le problème des États-Unis, c'est aujourd'hui la Chine. Donc nous rentrons dans un monde de grande turbulence et de grande inquiétude, je suis d'accord. Et plus que jamais, nous, on doit parler de paix. De voir, et notamment, des coalitions internationales sous l'égide de l'ONU pour régler notamment des problèmes en Syrie. Arrêtons ce discours, parfois, que j'entends, où il est de bon ton d'être d'une grande agressivité vis-à-vis de tout le monde, même notamment vis-à-vis de la Russie. Moi, j'ai aucune compétence vis-à-vis de Monsieur Poutine, mais attention, parce qu'on a là, aux États-Unis, un personnage qui va vouloir, sans aucun doute, créer, dans les années qui viennent, un monde dans une grande ébullition, et nous, notre diplomatie doit s'émanciper.
Oui, mais quelle diplomatie par rapport à un président dont certains disent qu'il est devenu une menace pour le reste du monde? Une semaine de décrets en tous sens, dont le dernier anti-immigration qui fait couler beaucoup d'encre. Le Parlement britannique va devoir voter sur sa venue ou non d'un président américain sur le sol britannique. Vous voyez où on en est rendu en moins d'une semaine. Est-ce que le président américain est, selon vous et pour Jean-Luc Mélenchon, une menace pour le reste du monde? Auquel cas, de quelle manière doit-on traiter avec lui?
Non, mais déjà, je crois que les contradictions du capitalisme américain, aujourd'hui surendetté, etc., fait qu'effectivement, il va chercher, lui, à mettre en œuvre la politique qui est là, à faire bouger les lignes. Et comme je le dis, je pense à essayer d'engager le monde dans un affrontement, notamment avec la Chine. Nous, on doit plus que jamais, pour vous répondre rapidement, vaste sujet, mais on doit avoir une diplomatie indépendante. Voilà, je pense que Jean-Luc Mélenchon l'a dit, il faut aller vers l'indépendantisme français, c'est-à-dire une diplomatie qui permet de parler avec tout le monde et éventuellement faire des accords avec d'autres pays pour éviter que ce soit les États-Unis qui donnent le tempo. On est dans un monde préoccupant et je dis à tous, la paix est un objectif important et doit être au cœur d'ailleurs du débat présidentiel.
Merci beaucoup Alexis Corbière. On attend avec impatience Jean-Luc Mélenchon ou alors son hologramme.
Allez, vous le proposez.
Eh ben merci.
Dimanche à Paris, venez le voir et je vous amène son hologramme la prochaine fois.
Et merci à Pauline Hellmann et à Audrey Yatoni d'avoir préparé cette émission. Merci Véronique et on se retrouve la semaine prochaine.